Entre nous soit dit, Mélanie Kroubalian.
Bonjour à tous. La photo date d'il y a 50 ans. On y voit un jeune homme aux cheveux longs et aux jeans rapiécés au milieu d'une voie ferrée. Il tient crânement sa guitare et regarde l'objectif d'un air amusé, voire provocateur, sur le point de lancer son fameux « Oh yeah ». Un terme qui donnera naissance à tout un mouvement, celui des yéyés, et une chanson qui fête aujourd'hui ses 50 ans, les élucubrations d'Antoine. Antoine, le chanteur que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Bonjour Antoine.
Bonjour. Je vais me permettre de rectifier une petite chose quand même. Le Oye n'a pas donné naissance.
En tout cas, il a donné un nom. Je me suis dit en le disant.
Mais il a plutôt clôturé l'époque des yéyés. Ah. On pourra en parler un petit peu,
d'accord.
Mais c'est rendant à César ce qui est à César.
J'essayais de trouver le lien entre Oye et yéyé, et finalement, il y a un lien quand même, puisque yéyé, voilà. C'est Oye. Et vous le parodiez, vous le faites presque ironiquement d'ailleurs dans cette chanson, le Oye.
Oui. Ah ben oui, il était ironique au départ, bien sûr.
Alors, Boracioli, c'est votre nom de famille, mais on vous connaît bien sûr comme Antoine. Vous êtes chanteur, voyageur aussi, notamment, on vous a vu dans des pubs, mais pas seulement. Vous faites des films, vous voyagez, on vous voit à la barre de votre bateau dans des paysages absolument somptueux, dans le Pacifique, dans les Caraïbes. Vos fameuses chemises à fleurs sont devenues légendaires, Antoine. Ça se passe bien, cette vie, tout va bien?
Non, ça va bien, oui. La pub, c'était... J'avais un contrat de mannequin... Ça devait être ma 27e profession que j'ai,
la 20, ah bon, 27e
profession que j'ai exercée dans
c'est
la vie,
précis,
dans ma vie. Oui. Enfin, j'avais fait un compte un jour, je suis resté sur 27, mais peut-être que c'est de plus ou de moins, je sais pas, mais enfin, c'est dans ces eaux-là, quoi.
Mm-hmm.
Mannequin, c'était quand même pas mal. J'étais vraiment sur
et
mon contrat.
Quel mannequin, hein.
Sur mon contrat, j'étais engagé comme mannequin. Faut le faire.
Vous auriez jamais pensé ça à l'époque où vous étiez sur cette voie ferrée avec votre guitare. Déjà 50 ans, les élucubrations d'Antoine.
Eh oui, un demi-siècle vous contemple.
Qu'est-ce qui reste de ce jeune homme narquois sur la voie ferrée?
Oh ben moi c'est le même. J'ai remplacé les trains et la voie ferrée et les voitures qui me prenaient en autostop par le bateau et les océans, mais je suis le même.
Les cheveux sont toujours là, toujours longs.
Les cheveux, bon, ils se raréfient un petit peu, mais s'il n'en reste qu'un, il sera long. Et puis le reste, non, j'ai toujours la même philosophie. Amoureux de la vie, amoureux de la planète, amoureux des rencontres sympathiques et puis puis de la solitude aussi qui est très importante, qui était déjà bien sur la route et qui me plaît toujours en bateau.
Ce qu'on va faire aujourd'hui, Antoine, c'est qu'on va feuilleter ce livre de souvenirs, ces 50 dernières années et même peut-être un peu avant. Vous en avez des souvenirs. Il y a un livre d'ailleurs qui est sorti pour l'anniversaire de cette chanson devenue mythique, qui est même entrée dans les livres d'histoire aujourd'hui, Antoine.
Eh oui, il y a quelques années, mon fils, un de mes fils qui était en terminale, juste avant le bac, quoi, m'apporte son manuel d'histoire de France, enfin d'histoire, et il me dit, papa, il y a ta chanson qui est dans mon manuel d'histoire. Et effectivement, dans les exercices, après un chapitre sur les événements qui se sont passés dans les années 60, en particulier en 68, les élèves étaient invités à réfléchir en se basant sur les couplets de ma chanson. C'est quand même pas mal, quoi. Et puis, de même que le couplet, un des couplets de la chanson, dont on parlera certainement, la pilule en vente dans les Monoprix, m'a valu une place dans les manuels, disons, les traités sur l'histoire des droits féminins. C'est quand même assez amusant.
Antoine le féministe, Antoine le philosophe. Vous y pensiez évidemment pas en écrivant la chanson, Antoine.
J'y pensais pas, mais en même temps, la chanson, j'y avais mis en vrac. Et j'avais mis en vrac toutes les choses qui me préoccupaient à l'époque, quoi. Il y avait qui préoccupaient aussi les gens, mais qui me préoccupaient parce que j'étais bien dans mon époque. Je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de chansons. On peut chercher. Pas eu beaucoup de chansons qui aient... était aussi, en cohésion, en correspondance avec les événements de l'époque, avec les phénomènes sociaux, avec le fait que les enfants arrivaient tout d'un coup, ils devenaient comme des adultes, ils avaient tout d'un coup la possibilité de choisir, de décider, de consommer, d'acheter. Alors qu'avant, ils étaient plutôt obéissants à leurs parents, quoi.
66, hein, c'était avant 68, c'était une période tout à fait charnière.
Voilà, je salue aussi l'arrivée de la radio qui nous a beaucoup apporté, qui nous a permis de nous évader. Bon, la télévision à l'époque, c'était plutôt basique, c'était à 7h30, ou 6h30 du soir, il y avait Gros Nounours qui envoyait les enfants se coucher, quoi. Mmh. Voilà, c'est ça. Après, la vie commençait pour les adultes,
les
enfants, ils devaient être au lit à 6h30. Quoi, c'était fini.
Oui, ça fait tôt.
Un petit peu changé depuis, mais c'était justement mon cousin imaginaire d'ailleurs dans la chanson, mon petit cousin qui avait 10 ans, il disait bonne nuit mon bonhomme à Gros Nounours et il partait danser le Djerk au Palladium. Mm-hmm,
voilà, exactement. Qui a 10 ans.
Un peu provocateur, mais on n'en est pas loin. Hein.
Mm-hmm, c'est vrai. Finalement, ça s'est peut-être un peu réalisé, tout ça. Vous parliez aussi de la question de la pilule que vous avez soulevée dans cette chanson.
Oui.
Alors, le livre dont je parlais, il sort aux éditions Gallimard. Antoine, 50 ans d'élucubration. On apprend plein de choses en lisant le livre. Alors, il y a bien sûr des tas de photos, il y a des articles, il y a les paroles de la chanson, bien sûr. Et vous, en photo, avec vos fameux cheveux longs, on vous voit même chez le coiffeur en train de vous faire un brushing.
Oui.
Parce que vous ne faisiez évidemment pas tout le temps.
Il y a beaucoup de photos, mais il y a aussi un petit DVD qui a été fait en collaboration avec l'INAS. L'INAS est l'organisme qui a sauvé beaucoup d'images des émissions de télévision d'autrefois et tout. Et puis, donc, il y a beaucoup de documents, en particulier une rencontre avec Dali, ou bien le scopitone, c'est-à-dire l'ancêtre de la vidéo musicale, l'ancêtre du clip. On ne disait pas clip, on appelle ça
tout
un scopitone.
Tout à fait charmant, ce scopitone.
C'est, toi, oui, et puis, t'es marrant, dans une casse de voiture, il est un peu mythique aussi, quoi.
Oui.
Et puis, il y a aussi, dans le livre, il y a beaucoup de QR codes, de flash codes qui permettent d'accéder à plein d'autres documents sonores ou visuels, comme on peut voir Yvette Horner, puisque je me moquais un peu de l'accordéon.
C'est de là que c'est parti d'ailleurs la chanson.
Oui, ça a commencé et on la voit, on l'entend en train de jouer Perle de cristal, la chanson, le morceau qui m'a déclenché un matin quand je suis réveillé, un matin de la fin de 65. Et où j'avais allumé la radio, et puis il y avait une émission d'accordéon, tout comme tous les dimanches matins. Et j'ai dit, oh, ton accordéon me fatigue, Yvette. Et puis je suis retourné pensant me rendormir, et ça s'est mis à tourner dans ma tête. Et tout d'un coup, je me suis redressé, j'ai sorti ma guitare, qui ne me quittait plus beaucoup déjà, parce que j'étais en train d'écrire un album de chansons. Et puis, en quelques minutes, j'avais écrit quelques couplets de cette chanson, et je ne savais pas que j'avais totalement bouleversé ma vie, que j'avais créé un espèce d'événement qui resterait dans l'inconscient collectif de beaucoup de gens, et qu'on m'en parlerait encore, et que Gallimard éditerait un livre sur cette chanson 50 ans plus tard. Mmh. C'est quand même impressionnant.
Une chanson qui est devenue vraiment un symbole, un mythe, enfin, je ne sais pas comment dire ça, une légende. Il y a eu de nombreuses parodies, d'ailleurs. Hein. Il y a eu les Hallucinations d'Edouard.
Ah, bah, il y a eu beaucoup de...
Les Émancipations d'Alphonse, ça, c'était Jacques Martin et Jean-Yann.
Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu pas mal de... Ça a déclenché certaines réactions, certaines agressives.
Oui.
Certaines agressives, il y a une vraie guerre des idoles. On peut citer, entre autres, Johnny Hallyday avec cheveux longs et des courtes. Mais c'était... Moi, je visais pas réellement à être provocateur, mais les médias, déjà, la maison de disques, ça s'appelait pas les médias, c'était la presse, tout ça, en profitait pour attiser. Pour attiser, quoi, par exemple.
C'est une belle histoire pour eux.
Avec Johnny, moi, j'étais fan de Johnny depuis toujours, mais simplement dans une envolée un peu surréaliste. J'avais imaginé des avions dans le couloir du métro. J'avais lu un livre, je lisais beaucoup Boris Vian, et je lisais aussi, j'avais un livre qui m'avait fasciné, qui m'a beaucoup changé la vie, le gars s'appelait, je crois, André Blondel ou Georges Blondel. Le livre s'appelait « Bras de fer et l'éternel ». J'ai dû le lire 10 fois depuis, et c'était... j'en parle dans ce livre d'ailleurs. Mm-hmm. C'est le héros était un rêveur qui voudrait que le monde soit toujours renouvelé, toujours changeant et tout. Alors moi j'avais imaginé, je me sentais bien dans la peau de ce rêveur là, et j'avais imaginé que tous les jours tout change. On voit des avions dans le couloir du métro et puis tout d'un coup la rime est venue et Johnny Hallyday en cas jamais de Rano. C'était pas du tout une agressivité d'ailleurs. La première fois que j'ai rencontré Johnny, la chanson venait de paraître et avait déjà un très gros succès dans les radios. Et Johnny me dit « Oh, j'adore ta chanson, d'ailleurs, regarde, j'ai une chemise à fleurs. » Et c'est vrai, il avait
personne
ne
l'a voulu. Hein. Yves Turner non plus, d'ailleurs, vous le racontez
non,
aussi dans le livre.
Non, Yves Turner, voilà. Alors, ça. Johnny, il y a eu une petite guéguerre à un moment, mais en fait, ça s'est vite arrangé.
Et il a aussi fait de la pub pour des lunettes. Hein.
Oui, ben oui, on est des...
C'est drôle. C'est...
Et Yves Turner, qui a maintenant 93 ans, je vais peut-être lui rendre visite la semaine prochaine, d'ailleurs, parce qu'on doit faire une rencontre avec Yves Turner.
Pourquoi pas une chanson avec elle? Ça serait une jolie boucle bouclée, Antoine. Je vous propose d'écouter l'autre chanson, pas celle que vous allez faire avec Yvette Horner, mais celle dont on parle depuis un petit moment maintenant, depuis le début de cette émission, Les Élucubrations, parce que je pense qu'on se doit maintenant de l'écouter, maintenant qu'on en a tellement parlé.
Depuis le temps qu'on en parle, oui.
Oh yeah. Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, dans 20 ans, si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît. Oh yeah. L'autre jour, j'écoute la radio en me réveillant. C'était Yvette Turner qui jouait de l'accordéon. Ton accordéon me fatigue, Yvette, si tu jouais plutôt de la clarinette. Oh yeah. Mon meilleur ami, si vous le connaissiez, vous ne pourriez plus vous en séparer. L'autre jour, il n'était pas très malin. Il a pris un laxatif au lieu de prendre le train. Oh yeah. Oh yeah. Avec mon petit cousin qui a 10 ans, on regardait Gros Nounours à la télévision. À Nounours, il a dit bonne nuit mon bonhomme. Il est parti danser le Tcherco Palladium. Oh yeah. Le juge a dit à Jules, vous avez tué. Oui, j'ai tué ma femme, pourtant je l'aimais. Le juge a dit à Jules, vous aurez 20 ans. Jules a dit, quand on aime, on a toujours 20 ans. Oh yeah. Tout devrait changer tout le temps. Le monde serait bien plus amusant. On verrait des avions dans les couloirs du métro. Et Johnny Hallyday en cage à Medrano. Oh yeah. Je porte des chemises à fleurs, c'est que je suis en avance de deux ou trois longueurs. Ce n'est qu'une question de saison, les vôtres n'ont encore que des boutons. Oh yeah. J'ai reçu une lettre de la présidence me demandant, Antoine, vous avez du bon sens. Comment faire pour enrichir le pays? Mettez la pilule en vente dans les monoprix. Oh yeah.
Ah oui, alors cette chanson qui est devenue aujourd'hui un phénomène, on s'en souvient tous très bien, on peut tous la chanter. Je suis sûre que nous avons chanté en écoutant cette chanson. C'était mon cas en tout cas, Antoine, vous aussi?
Oui, bah c'est marrant. Moi, cette chanson m'a donné un petit pouvoir magique, qui surprend lorsque je suis avec des amis étrangers, par exemple, des amis étrangers qui savent pas réellement ce que je fais. Et pour peu que je sois dans un endroit où il y a des Français ou des Suisses ou des Belges, enfin, essentiellement des francophones, si je sors un harmonica, je fais ta 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 ta, sans prévenir rien du tout, et tous les gens qui sont autour de moi font à la surprise de l'Américain ou de l'étranger, tout le monde crie oh yeah.
C'est un code secret entre francophones, en tout cas. Antoine, alors cette chanson, elle a 50 ans et je vous ai promis de revenir en arrière ces 50 dernières années et peut-être même avant, justement, avec ça.
Le malgache est certainement accueillant au fond de lui-même. Il est bien disposé, assurément, il est très respectueux. Mais il est discret, presque trop discret, trop réservé. Il a un sens extraordinaire de sa dignité. Il ne se livre pas, il reste sur la réserve. Et ça, c'est très sensible, dès le premier jour. Mon arrivée à Tananarive, par exemple, restera toujours dans ma mémoire. On a l'impression un peu d'arriver dans un monde fantomatique. Les malgaches sont drapés dans leur lambe. Leur lambe, c'est une sorte de foulard ou d'écharpe. Un tissu, un assez vaste tissu de coton ou de soie, de couleur blanche, c'est-à-dire sans couleur dans ce sens-là, que l'on se drape sur les épaules à la manière d'une toge ou d'une pèlerine ou d'une écharpe. Il y a toutes sortes de façons de le draper. Et puis les hommes ont sur les yeux volontiers un feutre qu'ils baissent jusqu'aux sourcils. Et alors ils sont là avec ce lampe quelquefois jusqu'à la bouche et même dont ils s'enveloppent tout le bas du visage dès qu'il fait un peu frais. Et vous êtes là comme parmi des fantômes. Ils sont toujours pieds nus. Vous savez qu'il n'y a à Madagascar ni vermine, du moins l'heure actuelle très peu, ni surtout scorpion, ni serpent. Et alors ils sont toujours pieds nus et ces pieds feutrés qui glissent dans la rue et ces gens qui sont ainsi drapés, c'est comme un monde de fantômes. Ils sont d'une exquise politesse, très raffinée, il y a toute une étiquette, ils sont très formalistes. Et alors, si je peux dire, pour moi les Africains forcent la sympathie et les Malgaches peut-être, oui, et ils forcent le respect.
Un voyageur qui nous vient de loin, de 1964, c'était Edmond Pidou, au micro de Jean-Pierre Goretta, et qui parle des malgaches avec une manière très désuète aujourd'hui, bien sûr.
Oui, c'est assez amusant le ton, mais c'est sympathique. Et puis les malgaches, ça correspond bien aux malgaches.
Oui,
oui, ça correspond bien aux malgaches.
Vous les connaissez, puisque vous êtes né là-bas.
J'ai pas de souvenir d'enfance, parce que j'en suis parti, j'avais 2 ans.
Oui.
Mais par contre, j'y suis retourné maintes fois
et
j'ai parcouru tout. J'ai la chance d'avoir un ami qui vit à Tananarive et qui a un petit avion. Et l'île est merveilleuse pour faire des voyages en avion parce qu'il y a beaucoup de terrain, on trouve du carburant et puis les routes sont en général très mauvaises, quoi. Alors j'ai fait de nombreux voyages et d'ailleurs j'ai réalisé 2 films, deux de nos documentaires sur mon île natale, quoi,
qui vaut vraiment documentaire sur vos voyages,
qui vaut le coup d'œil.
Madagascar, vous êtes né à Tamatave. C'est drôle parce qu'on a l'impression que c'était un genre de clin d'œil de la vie, de naître loin dans un décor paradisiaque de ceux que vous explorez aujourd'hui, Antoine.
Il y a une logique dans tout ça, c'est que mon père était voyageur, né dans une île lui-même, né en Corse. Il avait choisi de s'exiler parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'avenir pour un garçon, pour une personne, un jeune en Corse. Donc il était parti dans ce qui était les colonies françaises à l'époque. Mmh. Il a vécu en Algérie, à Djibouti, c'est comme ça que je suis né à Madagascar. Et puis, on est allé ensuite à Saint-Pierre-et-Miquelon, et puis ensuite au Cameroun. Donc, j'étais voyageur dans l'âme dès l'enfance, quoi. Donc, c'est tout à fait logique que je sois attiré par tous ces endroits lointains. La Polynésie, par exemple, où je passe le plus clair, une bonne partie de mes années maintenant, la Polynésie, on était censé y partir. Quand j'avais 10 ans, c'était la prochaine affectation de mon père et on avait failli y aller. Puis en fait, il avait perdu, quelqu'un lui avait piqué la place au dernier moment et on n'avait jamais atteint Tahiti, quoi.
Donc jamais dans votre enfance, vous n'y êtes allé à Tahiti? C'est plus tard?
Non, jamais dans le Pacifique, quoi.
C'est resté un rêve d'enfant?
C'était resté un rêve d'enfant. Ça avait été une déception. C'est parce que bon, on était retrouvé au Cameroun, c'était intéressant aussi, un pays tropical et tout, mais quand même, la magie de Tahiti, de la Polynésie, je ne l'ai découverte qu'à 35 ans, quand j'y suis arrivé, ou 33 ans, quand j'y suis arrivé sur mon premier bateau.
Vous avez dit, Antoine, je suis né et j'ai grandi voyageur, et là vous venez de nous l'expliquer, effectivement. Il y a eu quand même un retour en France à un moment donné, vous avez fait des études à Centrale. Racontez ce retour en France.
C'est-à-dire qu'à un moment, vers 14-15 ans, mon père a changé. Il a été employé ensuite à Grenoble. Donc, on s'est installé à Grenoble. Et on n'était donc pas très loin de la Suisse. Et puis, ma mère adorait les Alpes et la Suisse. Donc, on venait souvent. On a habité aussi à Thonon-les-Bains, juste en face en face de Lausanne, sur le lac. Et c'était toujours un plaisir d'aller en Suisse, d'aller faire un tour. Et donc, je me suis retrouvé, comme j'étais bon élève, comme mon père qui était ingénieur, bah, j'allais me retrouver ingénieur. Et c'est comme ça que j'ai fait mes études prépa à Grenoble. Et puis ensuite, je suis rentré à l'école centrale à Paris, quoi. Mais ce qui laissait présager un tracé beaucoup plus stable, beaucoup plus fixe, puisque normalement, une carrière d'ingénieur, j'allais chercher un emploi sédentaire, en quelque sorte, eh bien, ça a été tout à fait contredit par l'arrivée de la musique, quoi. Mmh. L'arrivée de la musique. Donc, j'étais à Centrale. J'étais un bon élève. J'ai eu mon diplôme. Avec un classement médiocre à la fin, alors que j'étais rentré avec un bon classement. Mais c'est parce qu'entre temps, la musique est arrivée. Mmh. Après le rock, j'ai découvert le folk, la musique populaire américaine, la musique folklorique américaine, qui tout d'un coup se dépoussiérait vraiment avec une grande énergie. Et puis, des copains américains m'ont appris à jouer la guitare. Et puis, je profitais de tous mes moments de loisirs à l'école pour partir, ne serait-ce que pour quelques jours, ou une semaine ou plus, à travers les États-Unis en autocar, à travers un peu partout, quoi, jusqu'en Suède, en autostop, jusque la Côte d'Azur, la Suède ou l'Angleterre, rencontrant toujours des gens plus intéressants que les uns que les autres, avec toujours de la musique, quoi. Et puis, bah, ça a abouti que, en même temps que je terminais mes études à Centrale, j'étais devenu chanteur. Et le jour même où je passais mon dernier examen, j'étais en vedette à l'Olympia également.
C'était
le même jour.
C'était donc votre père ne pouvait rien dire.
Voilà, il y a eu une convergence. Mon père, il trouvait ça très bien. Ma mère était plutôt inquiète, un peu. Ma mère a toujours été inquiète de toute chose. Mais mon père, lui, il aurait bien aimé vivre mon destin, quoi. Il était parti à l'aventure dans les pays lointains. Et ça ne le gênait pas du tout que moi, je parte à l'aventure dans les pays lointains et également dans l'univers bizarre de la musique. Quoi,
qui est aussi une autre sorte de pays lointain,
C'est un dépaysement, oui.
Mm-hmm. Et c'est pendant ces voyages que vos cheveux ont poussé, en fait, presque, vous le racontez dans le livre, presque sans que vous ne vous en rendiez compte. Enfin, c'était pas...
Oui, dans le livre, le livre est un prétexte simplement pour dépeindre des phénomènes sociaux et des phénomènes de l'époque, quoi, de rappeler des souvenirs. Je dis que c'est mon livre, c'est la DeLorean.
Oui, puisqu'on en parle beaucoup ces temps.
C'est un retour vers le passé. C'est un retour vers le passé. Et j'ai pris chaque couplet. Ce livre, en fait, c'est une idée de Gallimard. Hein. C'est eux qui m'ont proposé de le faire. Moi, je publie chez eux des livres de photos. Hein. C'est un que j'avais présenté chez vous l'an dernier. Comment s'appelle-t-elle?
Dans des tours avec Caboche. Madeleine Caboche, bien
Madeleine
sûr.
Caboche, voilà, oui. C'est ça. Et c'est eux qui m'ont demandé, quand ils ont perçu qu'il y avait les 50 ans des inaugurations, qui a demandé d'écrire ce livre. Alors j'ai fait un petit essai, je prétends pas rivaliser avec les écrivains prestigieux de chez Gallimard. Hein.
c'est pas du tout le propos de ce livre. Hein. C'est un livre avec beaucoup d'illustrations, il y a des extraits d'articles. Là je suis devant une page où on voit De Gaulle avec vos cheveux qui dit « Antoine m'a dit, fais-toi pousser les cheveux ». C'était dans le journal Minute.
Voilà. Et donc, j'ai écrit un petit essai chaque fois sur le phénomène concerné. Là, c'était les cheveux longs, les chemises à fleurs, les enfants, la pilule, etc. Et Johnny Hallyday, bien sûr, tout ça, voilà. Donc, j'ai écrit un petit essai comme ça, illustré, comme vous l'avez dit, de beaucoup de choses. Et on a trouvé... Mes parents, déjà, avaient commencé, depuis Grenoble, à rassembler des tas de coupures de presse. Ils avaient dû acheter beaucoup, beaucoup de journaux et de magazines à l'époque. Il n'y avait pas Internet, en plus, bien sûr. Et puis, mais il y a aussi des fans, une poignée de fans fidèles qui ont tout ce qui me concerne, ça m'impressionne toujours, qui m'ont retrouvé des tas de coupures de presse, quoi, des tas de documents également.
Oui, c'est un document historique aussi ce livre, parce qu'on voit justement ces coupures de presse de l'époque, par exemple « Mes cheveux rendent les filles folles de moi » par Antoine, c'est vos vraies élucubrations qui étaient parues en série d'ailleurs dans France Dimanche. Et puis, on y reviendra d'ailleurs à ça. Mais je voulais en revenir un petit peu à ce contraste entre votre vie d'enfant voyageur avec vos parents dans des contrées tout à fait exotiques et chaudes aussi, et ce retour en France. Vous vous souvenez du... On imagine que ça a pu être un choc pour un gamin qui revient comme ça.
Ben non, parce qu'on était toujours en voyage, mais on revenait tous les trois ans. C'était le principe de cette affectation. On partait trois ans dans un pays lointain et on revenait six mois en France. Donc, j'avais déjà un rythme comparable à celui que j'ai depuis que je suis en bateau, quoi. C'est-à-dire voyager les deux tiers du temps, et puis, ou les trois quarts du temps, et puis revenir en France. C'est-à-dire, moi, je dis toujours que des gens me demandent des conseils pour partir aussi loin que ce que je le fais, et je leur dis, mais vous pouvez très bien partir sans partir vraiment, c'est-à-dire sans couper tous les ponts, sans dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, sans faire de choses irréversibles, quoi.
Surtout et aujourd'hui, le monde est devenu si petit.
Voilà, le monde. À l'époque, disons, quand Alain Gerbaud partait en solitaire faire le tour du monde, il n'était pas censé revenir, quoi. C'était très linéaire, quoi. Il partait et puis il reviendrait 10 ans plus tard, quoi. Mais maintenant, ça a changé. Et déjà, c'était. Je le réalise en même temps que je vous en parle. J'avais cette réflexion que déjà le rythme de mon enfance c'était assez comparable à celui que j'ai maintenant, quoi.
Rien n'a changé.
On revenait en France, donc on voyait notre famille française. On allait dans les montagnes corses passer quelques semaines. On allait à Marseille à l'époque, et puis ensuite on s'installait. Ça a jamais été une rupture, je veux dire, après des années sous les tropiques, de venir s'installer en France. Par contre, à partir du moment où ça a duré quelques années consécutives, et puis qu'il n'y avait pas d'ouverture possible. Prévu, quoi. De redépart prévu. Il n'y avait plus de redépart prévu avec les études et tout ça. Comme je vous le disais, le chemin tout tracé de l'ingénieur, ça, c'était pas mon truc, quoi.
Et c'est donc là que vous êtes engouffré dans un autre voyage qui est la musique.
Alors, voilà, j'ai cherché. Mais avec la musique, elle est née sur la route pour moi. Je me suis mis à chanter parce qu'il fallait que je finance mes voyages. Et puis que j'aimais bien la musique aussi, quoi. Et puis, le départ était permanent, quoi. Ensuite, un peu plus tard, quelques années plus tard, il y a eu le bateau. Entre-temps, j'ai fait chanteur pendant 8 ans. Je faisais des tournées, il m'est arrivé de venir chanter en Suisse. D'ailleurs, la première fois que j'ai chanté en Suisse, il y avait une émeute dans le journal, je sais pas comment ça s'appelle, la Tribune de Genève, je pense. C'était titré en première page, petite émeute pour Antoine. C'était une petite mignonne émeute.
Ouais, une gentillesse émeute.
J'ai pas retrouvé l'article, il était marrant. Mais c'était, ce qui m'intéressait plus, c'était le voyage, quoi. Alors, en tant que chanteur, je suis allé au Brésil, au Québec, en Italie. J'ai fait une deuxième carrière. Il y avait un deuxième Antoine avec une autre chanson que les Élucubrations, qui s'appelait Pietre, que les Suisses italophones connaissent très bien, et qui a fait un phénomène aussi puissant, quoi, aussi impressionnant, quoi. Alors qu'elle parlait d'autre chose, mais elle est restée dans l'inconscient collectif des Italiens. Et puis, un jour, presque par accident, je suis monté sur un petit voilier. Et tout d'un coup, je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr. C'est ça que j'attendais depuis longtemps. Et je me suis organisé pour partir 5 ans plus tard. Et à 30 ans, je suis parti. Comme je dis toujours, je pensais que ça durerait 5 ou 6 ans. Ça fait 42 ans que ça dure.
En 1974, vous achetez votre premier bateau. Mais on y reviendra à ça. Antoine, j'aimerais qu'on écoute maintenant Bobby Lapointe. Parce qu'il parle de quelqu'un que vous connaissez assez bien. Vous qui naviguez beaucoup, c'est la maman des poissons.
Oui, c'est une très jolie chanson.
L'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde. C'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis, elle reste muette. La maman des poissons, elle est bien gentille, elle ne leur fait jamais la vie, ne leur fait jamais de tartines. Ils mangent quand ils ont envie et quand ça a dîné sardine. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille. S'ils veulent prendre un petit verre, elle les approuve de deux ouïes. Leur montre en commençant s'ennuie, on les décroche de leur patère. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille. S'ils veulent être maquereaux, c'est pas elle qui les empêche de se faire des rêbles sur le dos dans un banc à peinture fraîche. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons,
elle est bien gentille. J'en connais un qui s'est marié à une grande république. Il dit quand elle lui fait la nique, ah qu'est-ce que tu me fais marrer. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond. On ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille. Et moi je l'aime bien avec du citron. Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis, elles restent muettes. La maman des poissons, elle est bien gentille.
Le roi du calembour, Bobby Lapointe.
J'ai beaucoup navigué, je n'ai encore pas rencontré un poisson qui fait pipi sur ses chaussettes.
Ça viendra peut-être. En écoutant la chanson, Antoine, je me disais, il y a une parenté, il y a peut-être un cousinage entre vous et Bobby Lapointe, je me trompe?
Ah, bah, j'étais très fan de Bobby Lapointe. Et j'aime bien les mauvais jeux de mots, les jeux de mots lourdingues. J'aime bien cet humour tendre, quoi.
Oui.
Il y a une tendresse dans cette chanson. Et même dans toutes ces chansons plus folles à Bobby Lapointe, il y a toujours une espèce de tendresse. Et un petit peu, c'est un peu surréaliste, quoi. Ça va bien avec la pataphysique, avec une petite forme de surréalisme, gentil. Gentil et coloré, quoi. C'était.
J'adore. C'est ça le point commun, vous voyez. Vous
j'ai
avez
toutes
mis des
les chansons. J'ai l'intégrale, entre autres, parmi beaucoup d'autres musiques, bien sûr, mais j'ai l'intégrale de Bobby Lapointe à bord du bateau. Et il m'arrive parfois d'écouter, de passer plusieurs heures de suite à écouter ces chansons qui étaient toutes assez impressionnantes.
Antoine, nous fêtons en 2016, hein, c'est donc quelques semaines, quelques mois, l'anniversaire, les 50 ans des Élucubrations que vous avez écrit, chanté, qui est devenue une chanson phénomène. Et pour fêter cet anniversaire, nous avons le plaisir de vous recevoir pour parler de vous. Et puisqu'on parlait musique tout à l'heure, écoutez cette voix.
Vous savez, la plupart du temps, un physique, la voix et le physique font un tout. C'est-à-dire, on imagine très difficilement, bien que ce soit déjà produit, un chanteur de charme qui serait difforme, et par exemple un chanteur de rock'n'roll qui aurait une tête d'intellectuel. Moi, je fais très attention au physique des interprètes, parce que ça a tellement d'importance. Surtout, à l'heure actuelle, on a tendance à enregistrer un maximum de garçons ou de filles qui ont entre 16 et 20 ans. Et à cet âge-là, la clientèle qui achète les disques est terriblement sensible au physique. Et on est un peu obligé de voir ce côté-là.
Oh yeah. Oui, alors là, nous abordons en quelque sorte quelque chose qui est complémentaire au disque, en tout cas en ce qui concerne sa vente, c'est la pochette.
Oui, oui. Alors pour la pochette du disque, ce que j'ai oublié de vous dire, entre ces opérations d'enregistrement, l'interprète aura fait des séances de photos, des séances en studio et des séances à l'extérieur. On détermine, enfin on essaie de choisir la plus jolie pochette, enfin qui aura d'abord, si possible, un cachet d'originalité et qui également le présentera sous son aspect le plus agréable. Et on écrit un texte de présentation derrière cette pochette pour donner une petite idée de lui en général.
J'ai mis un petit moment à reconnaître. Hein. J'ai mis quelques. J'ai mis 30 secondes à reconnaître. Christian Fechner, évidemment.
Absolument.
C'est Christian Fechner qui était un fou dangereux. Il était débutant directeur artistique chez Vogue. Et il était persuadé qu'il allait devenir le plus grand producteur de films français. Hein. Rêveur, quoi. Il l'est devenu.
N'empêche, il vous a trouvé.
Ben oui, c'est clair. Et c'était marrant, quoi. Bon, il m'a trouvé. On s'est entendu bien pendant un moment, puis pas très longtemps, parce que lui, il avait une conception de la vie. Il fallait presser le citron. Moi, je voulais faire de la chanson à mon rythme, quoi. Hein, à mon rythme. Mais il a été décisif, c'est vrai. À l'époque, personne n'enregistrait un album. Et là, il y a juste 50 ans, je l'ai rencontré. J'ai pris rendez-vous avec. À la suite, quelqu'un m'avait conseillé d'aller le voir. Et puis, il m'a enregistré tout de suite, quoi. Et ce qui ne se passait jamais, il m'a donné la possibilité d'enregistrer un album très vite, avec 10 nouvelles chansons. 10 nouvelles chansons, donc il fallait que j'écrive. Et c'est comme ça que sont nées les Élucubrations. Voilà.
Il cherchait le Dylan français, lui. Hein.
Oui, parce qu'il était à l'époque où il y avait. Lui, il voulait faire des. Il avait fait une liste d'adaptations d'artistes étrangers. Il voulait faire les Sonny and Cher français. Il voulait faire le Dylan français. Il voulait faire le Presley français. Le premier groupe de rock. Il avait il visait large. Hein. Il voulait, il avait dit au directeur de chez Vogue, engagez-moi. Il était tout jeune, hein, il avait un an de moins que moi. Et il a dit, engagez-moi, je vous ferai 5 vedettes dans l'année.
Ambitieux.
Et ben c'est vrai qu'ensuite, il a fait ses preuves. Mais en même temps, on est restés amis. On a eu quelques bisbilles financiers, bien sûr, à un moment, parce que lui, l'argent lui brûlait les doigts. Mais et il savait pas s'organiser du tout, quoi. Mais ensuite, on est restés amis. On s'est rencontrés bien des fois. Et des années plus tard, je raconte une anecdote dans le livre, le couplet sur les chemises à fleurs. Des années plus tard, j'avais retrouvé la chemise à fleurs qui est en photo dans le Salut les copains spécial Antoine qui a été publié cette année-là, où il y avait 70 pages sur ce phénomène. Et j'avais retrouvé la chemise, un exemplaire du magazine, et on l'avait mis sous verre et vendu aux enchères pour envoyer des enfants en classe de mère. Et c'était Christian Fechner qui avait acheté cette chemise, je crois, 42 000 francs.
Une chemise en or massif, vous écrivez dans le livre.
Une chemise précieuse, voilà.
Oui, absolument.
Et quand on allait dans son bureau de producteur ensuite, où il y avait tous les... Lui, il a fait des films, il a produit des films avec Delon, avec les plus grands de Funès, etc. et tout. Et dans son bureau, il y avait ma chemise sous verre, comme ça.
C'est lui qui vous adjoint les problèmes.
Le groupe
qui vous accompagne.
Voilà, il avait pas du tout prévu de faire un groupe comique. Il avait un chanteur comique, un petit peu comme Pierre Perret, quoi. Mais il avait un groupe pop, un groupe rock qui s'appelait Les Problèmes et qui était très prometteur, quoi. Qui faisait des belles chansons, qui n'avaient pas encore eu de succès de tube réellement, mais qui étaient des bons musiciens, qui étaient marrants en plus, et qui avaient une personnalité chacun, quoi. Et puis, pour d'autres sortes de raisons un peu trop longues à expliquer, un jour, il les a transformés en charlots, quoi. Ils sont devenus les charlots. Alors, ils ont fait un très grand succès dans la chanson, dans la gaudriole, quoi. Mais par contre, il n'y avait plus du tout de place pour le rock'n'roll, quoi. Ça, c'est ce que j'ai regretté, quoi. Mais Christian, il était comme ça, quoi. Quand il voyait quelque chose qui pensait être ce qu'il fallait faire, et personne n'avait à discuter, quoi.
Il ne posait pas trop de questions. Vous parliez tout à l'heure de votre goût pour la solitude, Antoine, et c'est vrai que c'est aussi peut-être la raison qui vous séparait, en fait, ce qui vous séparait de Christian Fechner, c'est que lui, il fonctionnait en clan, vous étiez un solitaire.
Voilà, je parle de ça sur le couplet « Mon meilleur ami, si vous le connaissiez ». J'ai abordé le sujet de l'amitié. C'est vrai que les problèmes m'ont accompagné. J'étais content d'être avec eux. Mais en même temps, j'étais solitaire. En tournée, j'étais toujours été solitaire, comme je l'ai été plus tard en bateau, quoi. Tout en aimant rencontrer des gens, aussi en passant du temps avec ma compagne. Mais j'ai toujours aimé faire des traversées en solitaire, par exemple, quoi. Vraiment. Ça n'empêche pas que j'ai gardé longtemps des relations amicales, par exemple avec Louis Rigaud, puis surtout qui était un des problèmes, et puis surtout avec Gérard Rinaldi, qui a fait ensuite une belle carrière dans la télévision et puis au théâtre comme comédien. Et voilà. Et puis je regrettais, comme je vous disais, un petit peu qu'ils n'aient pas continué à faire du rock, quoi.
Ils ont eu un tel succès
dans la comédie que c'était, il n'y a pas de regret à avoir.
Alors ça, c'est pour la période 66, la naissance des Illucubrations. Antoine, vous avez parlé de votre départ sur les routes, vos voyages, guitare au poing, pour gagner quelques sous. Comment vous considériez, à ce moment-là, ou même quelques années avant, les anciens chanteurs ?
Bon, les anciens chanteurs, il y avait eu un phénomène, je vais expliquer un peu l'histoire du yéyé, là, parce que les gens mélangent un petit peu. Il y avait eu un bouleversement énorme, disons 5 ou 6 ans plus tôt, excusez-moi, il y avait eu un bouleversement dans la musique fondamental, parce que tous les chanteurs comme étaient Aznavour, Brel, Becco, Ferré, etc., tous ces chanteurs qui chantaient depuis des années, qui étaient des... Ou parmi les femmes, il y avait Edith Piaf et plein d'autres, quoi, avaient tout d'un coup été balayés par l'arrivée du yéyé. Le yéyé, c'était une onomatopée qui était utilisée parce que c'était des adaptations de chansons américaines en général, ou anglaises, surtout américaines. Et puis l'adaptateur faisait un peu un travail un peu bâclé, et il manquait toujours un ou deux pieds à la... Alors il rajoutait yéyé au haut... Oui. Bon, par exemple, ce soir je serai la plus belle pour aller danser. Et voilà, il manquait des pieds la traduction. Ils n'avaient pas le temps. Ils traduisaient tellement vite, ils n'avaient pas le temps d'écrire les lignes avec le bon nombre de pieds, quoi. Alors c'est comme si Racine ou Corneille avaient rajouté des et à la fin. À la fin, c'était pas terrible. Donc un journaliste avait décidé d'appeler ça yéyé, quoi. Et ça représentait toute une époque d'adaptation musicale surtout, et qui était très assez aseptisé, quoi. Jamais les yéyés n'auraient réclamé la pilule dans les Monoprix, quoi. C'était, ça n'existait pas, quoi.
Hein. C'était formaté, au fond, hein. Il fallait parler de certaines histoires, des thèmes.
Ah, ben, c'était très formaté, quoi. Et puis, mon arrivée a été le signe à mon coureur de 2 ans avant mai 68, et puis de gens qui voulaient s'affranchir même de ça, même de cette musique qui était joyeuse, mais qui était aseptisée, quoi, qui était formatée, comme vous l'avez dit. Alors, on a. Il y a eu un bouleversement, mais en fait, moi, mon oyé, il est arrivé, il a plutôt balayé le yéyé. Il a été le signe avant-coureur de ce qui est venu après, avec Dutron d'une certaine façon, Paul Naref, plus tard des gens comme Cabrel, comme Souchon, etc., qui, tout d'un coup, dans leurs chansons, ne parlaient pas seulement, ils en parlaient aussi un peu parfois, mais ne parlaient pas seulement d'histoires d'amour entre un homme et une femme, et ainsi de suite, qui avaient également des préoccupations humaines, humanitaires ou de
sociales même
ou sociales, voilà, qui étaient philosophiques, enfin tout ce qu'on veut, quoi, qui étaient chercher un sens à la vie que ne cherchaient pas tellement les yéyés, quoi.
Dylan l'a fait aussi, et on parlait du Dylan français, c'était vous pour Christian Fechner. On va écouter le vrai Dylan si ça vous va.
Eh ben, avec plaisir. Antoine,
A Simple Twist of Fate.
Entre nous soit dit, Mélanie Croubalion.
They sat together in the park as the evening sky grew dark. She looked at him and he felt a spark tingle to his bones. 'Twas then he felt alone and wished that he'd gone straight and watched out for a simple twist of fate. They walked along by the old canal, a little confused, I remember well, and stopped into a strange hotel with a neon burning bright. He felt the heat of the night hit him like a freight train moving with a simple twist of fate. Saxophone someplace far off played as she was walking on by the arcade, as the light bust through a beat up shade where he was waking up. She dropped a coin into the cup above a blind man at the gate and forgot about a simple twist of fate. Was bare. He didn't see her anywhere. He told himself he didn't care. Pushed the window open wide. Felt that emptiness inside, to which he just could not relate. Brought on by a simple twist of fate. He hears the ticking of the clock. Walks along with a parrot that talks. Hunts her down by the waterfront docks where the sailors all come in. Maybe she'll pick him out again. How long must he wait? One more time for a simple twist of fate. People tell me it's a sin to know and feel too much within. I still believe she was my twin, but I lost the rain. She was born in spring, but I was born too late. Blame it on
a simple twist of fate.
Antoine, ça c'était le vrai Bob Dylan que vous aimez beaucoup aussi et qui est aussi une inspiration pour vous. C'est l'album Blood on the Tracks en 1975.
Oui, très très belle chanson, pleine d'images, d'images somptueuses.
Mm-hmm. Et c'est peut-être un Dylan auquel on est moins habitué, on connaît aussi ses tubes. Celle-là, on
oui.
la connaît peut-être un peu moins.
Oh, ben, ça a été un gros succès aussi, mais pas autant que Blowing in the Wind, ou bien sûr, ou Mr.
Ouais,
Tambourine
Man.
Ouais.
Mm-hmm.
Mais il faut dire que ce garçon, il a quand même fait, je sais pas combien d'albums, peut-être 30 ou 40 albums, qui ont tous été des numéro 1 en Amérique, mm-hmm. des succès, et puis mondialement d'ailleurs, des
y
succès
compris
énormes.
Le dernier qui est magnifique. Ouais, ouais. Une dernière voix pour vous, Antoine.
Mais les marins ont quelque chose à fuir. Est-ce que vous avez tous en commun?
Non, je pense pas que ça soit de la fuite, je pense qu'au contraire, c'est une recherche. C'est la recherche de la vérité. Je dis toujours, j'ai profité de ces magnifiques années entre 65 et 70 où il y avait cet élan pour partir en quête de vérité, que ce soit en mer ou il y en a d'autres qui partaient élever des chèvres et faire du fromage de chèvre. Les années Baba Cool, Peace and Love, c'était un retour aux sources, un retour à la nature et à l'essentiel. En fait, aller en mer, c'est pas une fuite, c'est au contraire rechercher l'essentiel, rechercher la vie, l'essence de la vie, l'explication de la vie, la position de l'homme dans le cosmos.
Et on a le temps de penser à tout ça?
En fait, on n'y pense pas, on le ressent. C'est-à-dire qu'on est tellement concentré sur la marche du bateau, sur l'observation des nuages, de la mer, et un état second dans lequel on est assez rapidement plongé avec le manque de repères terriens, le manque de contact et de communication et donc de langage et de bavardage, le manque de sommeil aussi, que finalement on est plongé dans l'univers, dans le cosmos, et on comprend, en fait on se débarrasse, moi je dis toujours, je pense à rien, je débarrasse ma tête de tout ce qui est encombré par des trucs nuls qu'on a à terre, des choses sans importance et qui nous bouffent la tête.
La mer qui peut aussi parfois être cruelle, Antoine, elle nous l'a enlevé, Florence Artaud, il y a très peu de temps.
Malheureusement qu'on fait de la radio parce que je suis en larmes.
Je suis désolée de vous faire pleurer.
Qu'est-ce qu'elle est allée foutre dans cet hélicoptère, dans cette télé-réalité à la con, là. Mm-hmm. Et moi, elle me manque sérieusement.
Mm-hmm. Après toutes ces années en mer, où il ne lui a rien arrivé.
Elle avait échappé, hein. Elle avait échappé à un truc comme miracle, elle avait été sauvée par miracle 2-3 ans avant, où elle est tombée par-dessus bord de son bateau en solitaire, avec par chance un téléphone étanche, et elle avait appelé sa mère. Elle avait été sauvée, c'était de nuit au large du Cap Corse, et elle avait été sauvée une demi-heure plus tard. Et qu'est-ce qu'elle est allée faire dans cette télé-réalité? Je suis fâché avec ce genre d'émission, Geoffrey Javet. Donc, Florence, c'était quelqu'un, Florence Artaud, puis vous l'avez reconnue,
qui était au micro
sûr.
De Florence, une autre Florence Farion, en 2009.
Voilà, et Florence Artaud, c'était vraiment quelqu'un que j'adorais. On avait bu une dernière bouteille de champagne avec elle au Salon Nautique quelques mois avant, quoi. Et puis elle était quand je sais pas si vous avez suivi ça à un moment j'avais essayé de parler de prendre la parole publiquement pour qu'on adapte en France une attitude pragmatique sur la prostitution comme en Suisse quoi comme c'est le cas en Suisse
la pénalisation
la répression c'est ridicule. Vous êtes tellement plus intelligent en Suisse tellement plus pragmatique sur des sujets comme ça. Et elle avait été la première, avec un dynamisme fou, elle voulait aller dans les émissions et tout, à appuyer ma requête, quoi, ma quête. Elle était, et vraiment, c'était quelqu'un d'important pour moi. Voilà. Mmh.
Si je vous la fais écouter, Antoine, c'est pas seulement parce qu'elle naviguait comme vous et que vous aviez la mer en commun, mais c'est aussi parce que vous aviez, si j'ose dire, le père en commun, puisque c'est son père qui a publié votre premier livre chez Artaud, justement. Enfin,
voilà, c'était une légende. Jacques Artaud était une légende. D'abord, les éditions Artaud étaient une maison d'édition connue à Grenoble, plutôt spécialisée au départ dans la montagne. dans Frison Roche, etc. Et puis le fils, Jacques Artaud, donc avait lui une passion pour la mer. Donc il a publié Tabarly, Alain Colas, tous les navigateurs, Bernard Moitessier, tout navigateur de plaisance ou de compétition qui écrivait un livre était publié par Jacques Artaud. Quoi. C'est comme ça que sa fille a commencé à naviguer. Et puis et qu'elle a été, bon, elle a eu un beau palmarès, et puis surtout c'était une femme extraordinaire, vraiment.
Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'elle dit dans cette archive, justement, sur le fait de naviguer? On lui dit, est-ce que c'est fuir?
Ça vide la tête, oui, ça vide la tête, c'est certain, c'est tout à fait vrai, hein. Une traversée, on met les compteurs à zéro, quoi. Toutes ces choses qui semblent si importantes, moi-même, là, je suis depuis trois semaines en région parisienne, là, pour la promotion de ce livre, et j'ai des tas de choses qui semblent essentielles dans la tête, et quand je serai sur le bateau, quand j'aurai, bon, il y a encore des travaux à faire d'entretien, là, mais quand j'aurai repris le large, ça me videra la tête, et ça sera tout à fait plaisant, quoi. Ça sera tout à fait satisfaisant. C'est mieux que toutes les psychanalyses.
Bon, bah, à conseiller, alors, en tout cas. qu'est-ce qui vous manque du monde où vous avez baigné pendant 8 ans en tant que chanteur, Antoine?
Oh, rien. Du monde de la du monde du show business, ouais. de la musique non, j'ai la chance d'avoir gardé des sympathies, voire des amitiés avec des personnes que je retrouve. J'ai toujours une, sans être bousculé par sans créer d'émeutes, j'ai la sympathie des gens, j'ai la sympathie des gens qui m'embêtent pas mais qui me font un sourire complice quand je les croise et tout, que ça soit en Suisse ou en France d'ailleurs, hein, ou en Italie. J'ai cette sympathie, je l'ai toujours. J'ai pas un regret de pas avoir plus de succès, ça va très bien comme ça. Et non, puis en plus les choses qui pourraient me manquer, que ça soit des choses culturelles ou des choses plus prosaïques, comme simplement tel ou tel aliment, par exemple, tel ou tel truc qu'on trouve pas là-bas au bout du monde ou dans les îles, ben, comme je reviens régulièrement, ben, je n'en suis pas privé, voilà. J'en suis pas privé. Là, je suis allé voir, souvenir du temps des yéyés, je suis allé voir le spectacle de Jean-Marie Perrier qui commente ces magnifiques photos de l'époque, de toutes les vedettes de l'époque de la chanson des années 60. Je vais voir dans quelques jours, je vais voir le spectacle de Valérie Lemercier. J'avais vu son premier spectacle, je serais content de voir le suivant. Et puis, donc, j'ai des...
Vous faites le plein avant de repartir sur le bateau, en fait.
Voilà, amitié, culture, utiliser éléments culturels, bon repas aussi.
Assez causé, assez palé, assez causé, assez palé, petit garçon, si où courir la nuit toi, petit garçon, petit mouton, ou qu'est fatigué trop, petit garçon, petit mouton, papa mouton, maman mouton, oh la ouais, yo ho ho, vieux, allez maman là, amoli, j'ai péré. Assez causé, assez palé, assez causé, assez palé, petit garçon. Si vous faites qu'on papa, petit garçon, petit mouton, ou que fatigué trop, petit garçon, petit mouton, papa mouton, maman mouton, oh là. Mettez la couche là, hein. Allez. Assez causé, assez parlé, assez causé, assez parlé, petit garçon. Si vous faites comme papa, petit garçon, petit mouton. Même chose ou vini fou, petit garçon, petit mouton. Papa mouton, maman mouton, oh la way, yo.
Vous écoutez Entre nous soit dit, on se quitte quelques instants pour prendre quelques nouvelles de la route.
Infotrafic RTS.
Dans le canton de Vaud, on signale un déversement d'huile sur la route reliant. Ah, c'est pas cette bonne information, bah tant pis.
Voilà, nous sommes partis du côté de la Martinique. Évidemment, ça s'imposait pour la fin d'une émission avec Antoine. Il est peut-être déjà d'ailleurs sur son bateau. C'était Jenny Alpha avec Assez causé, chanson traditionnelle de la Martinique.
Infotrafic RTS.
Et voilà, cette fois c'est la bonne info, c'est une urgence une. Un piéton sur la chaussée, on nous signale la présence d'un piéton sur le contournement de Lausanne, entre Lausanne-Crissier et l'échangeur des Culs Blancs en direction de Genève. Roulez prudemment sur ce tronçon.
À toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission, Dominique Salder et Eric Sogi en régie et à la réalisation des archives, Monique Cortési, notre assistante de production, Dany Sulam pour le site internet et François Piton pour le choix des musiques. Juste après les informations, voyage encore avec Détour. Merci d'écouter la première, il est 15h.